Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Marc-André Leclerc.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
187 Cube Radio.
1-877-827-2346.
On le sait, qui dit campagne électorale dit promesse électorale et également, ben, pour faire des promesses, ça prend de l'argent. Aujourd'hui, il y avait le dépôt d'un rapport extrêmement important qu'on appelle le rapport préélectoral du ministère des Finances. Et pour en parler, là, une personne très bien placée, député de Gros-Yaman, ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard. M. Girard, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Girard, là, pour permettre à nos auditeurs de bien se comprendre, là, qu'est-ce que ça mange un hiver, un rapport préélectoral du ministère des Finances?
Mais en fait, ça donne un portrait complet de l'économie et de la situation financière du Québec. On pourrait voir ça comme une mise à jour budgétaire sans nouvelles mesures. C'est vraiment un document qui est rigoureux, avec des prévisions économiques raisonnables, des hypothèses solides. Et en plus, pour le rapport préélectoral, la vérificatrice générale du Québec le certifie. Alors, elle fait une analyse exhaustive et elle a dit que nos prévisions et nos hypothèses étaient plausibles.
Donc, pour vous, comme ministre des Finances, aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle là, que la vérificatrice générale, là, Guylaine Leclerc, dise, ben, mette un peu son sceau sur les projections et sur l'ensemble des documents et bien sûr le dernier budget que vous avez présenté au printemps dernier.
Oui, et pour donner un peu plus de détails sur le processus, là, ça fait quand même déjà quelques mois qu'on travaille là-dessus. Et tout le long du processus, le ministère des Finances a échangé avec la vérificatrice générale nos prévisions, nos hypothèses ont été documentées, expliquées, et pour permettre à la vérificatrice générale de faire son analyse exhaustive et de donner sa certification, ce qu'elle a fait ce matin.
Bon, M. Girard, allons dans les détails, allons dans les chiffres. Là. Donc, ce qu'on se rend compte, la conclusion, vous me corrigez si je me trompe, c'est que, dans le fond, la crise là qu'on connaît présentement au niveau du coût de la vie, au niveau de l'inflation, a permis au gouvernement du Québec de générer davantage de revenus, ce qui fait en sorte que le déficit qu'on devait avoir pour l'année de 6 points, environ 6 milliards, on est plus aux alentours présentement de déficit là de 700 millions si on prend en considération la portion qui s'en va au fonds des générations. Fait que si on enlève ça, le gouvernement du Québec, l'État québécois présentement serait quasiment en surplus budgétaire. Donc, est-ce que ça change pour vous l'horizon de revenir là à un budget là équilibré là en 2027-2028?
Bon, là, vous avez dit plusieurs choses. D'abord, pourquoi les résultats sont meilleurs que ce qui avait été présenté au budget? Bien, il y a deux raisons, là. Il y a la progression de l'activité économique qui se poursuit au Québec. On sait que 2021 a été une année remarquable. Et là, on augmente la prévision économique pour 2022 de 2,7% à 3,4%. En plus, là, vous l'avez mentionné, il y a de l'inflation, ce qui fait que le PIB nominal, là, qui est la somme de la progression de l'économie réelle et de l'inflation, a été rehaussé. Alors, ça donne plus de revenus. Et donc, plus de croissance, plus d'inflation, plus de revenus, une amélioration du cadre financier de 2,3 milliards en moyenne par année. Ensuite, vous avez raison aussi que nous avons une définition de l'équilibre budgétaire qui est plus stricte, plus rigoureuse que les autres provinces ou le gouvernement canadien. C'est-à-dire que nous, on contribue au fonds des générations à chaque année, plus de 3 milliards cette année, pour réduire le poids de la dette du Québec. Parce que historiquement, le Québec était très endetté. Maintenant, nous sommes moins endettés que Terre-Neuve, Labrador et l'Ontario. Et on doit continuer de réduire la dette. Alors, c'est pour ça qu'il y a des versements au fonds de génération.
Mais là, donc, également, vous avez profité là du rapport, de la présentation du rapport de cet avant-midi pour parler là un peu sans tambour ni trompette là, Monsieur Girard là d'une baisse d'impôts là. Monsieur Legault l'avait un peu évoqué. On a eu la chance de discuter ensemble là, au début de l'été, au mois de juillet. On avait parlé également de ça, mais là. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'une fois que l'élection va être officiellement lancée, dans votre plateforme, là, on s'en va vers une baisse d'impôts. Là.
Bien, nous, au niveau des finances publiques, là, on va proposer aux Québécois de continuer le travail avec une approche équilibrée, responsable, une saine gestion des finances publiques, bien financer les missions de l'État, le retour à l'équilibre budgétaire, la réduction du poids de la dette. Mais c'est aussi le temps de réduire le fardeau fiscal, baisser l'impôt sur le revenu des particuliers. Il faut faire ça de façon ordonnée et responsable parce que tout ça doit être faire partie d'une approche équilibrée qui va donner un cadre financier qui est solide.
OK, mais monsieur Girard, vous l'avez dit en point de presse, vous venez de le répéter, ordonné et responsable. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ordonné? Ça veut dire que c'est pas pour le prochain rapport d'impôt, c'est pour dans 2 ans. C'est quoi ça veut dire ordonné dans votre tête?
Mais là, nous, on va présenter nos promesses en temps et lieu, mais ce que je vous dis, c'est que lorsqu'on regarde le fardeau fiscal des Québécois, en comparaison des autres citoyens au Canada ou en Amérique du Nord, le poids de la fiscalité au Québec est plus élevé d'approximativement 5 %. Alors, ce qu'on veut, c'est réduire le fardeau fiscal via l'impôt sur le revenu des particuliers. C'est les Québécois qui payent ça, ce fardeau fiscal-là. Là. Alors, on le sait, la TVQ est plus élevée ici que dans d'autres provinces et les taux d'imposition sont plus élevés. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que en 2018, nous avions prévu une réduction du fardeau fiscal. On a baissé les taxes scolaires, on a augmenté les allocations familiales. Là, il y a eu une pandémie. On veut continuer le travail et là, on va y aller directement sur des baisses d'impôts sur le revenu des particuliers. Et puis ça va stimuler l'offre de travail, ça va encourager les gens à travailler plus, ça va stimuler l'économie, puis ça va aider la création de richesses.
Mais ça, donc, vous parlez de baisses d'impôts, mais également, M. Legault, premier ministre du Québec, parlait aussi d'un autre chèque de 500 $. Fait que là, est-ce qu'on additionne? Est-ce qu'on peut s'attendre à un chèque de 500 $ avant la pause des fêtes et après ça, une baisse d'impôts pour l'année suivante?
Mais c'est deux choses. D'abord, j'ai mentionné que le sommet de l'inflation en Amérique du Nord était autour du mois de juin. Et nous avions prévu au budget 4,7 % d'inflation. Or, nous révisons l'inflation pour l'année 2022 au Québec à 6,5 %. Donc, ça justifie un geste ponctuel supplémentaire pour lutter contre la hausse du coût de la vie. Mais au niveau du fardeau fiscal, de l'impôt des particuliers, là, ça doit être fait dans le cadre d'un... Vous savez, le retour à l'équilibre budgétaire, on a une loi, c'est sur 5 ans. Oui. La réduction du poids de la dette, c'est des objectifs long terme, 10 ans, 15 ans. Le financement de la santé puis de l'éducation, de la lutte au changement climatique, on a besoin d'un financement adéquat à long terme. Alors, la réduction du fardeau fiscal doit se faire, puis c'est pour ça que j'utilise les termes de façon ordonnée et responsable, afin que tout ça fonctionne dans le cadre financier, que ce soit une approche équilibrée.
Mais je veux juste être sûr là, de bien comprendre pour le bénéfice de nos auditeurs, M. Girard, c'est que là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que un chèque ponctuel, oui, pour justement pallier au fait que l'inflation est plus élevée que dans vos projections du printemps dernier, additionné à une baisse d'impôts plus structurelle pour les prochaines années. Je comprends bien.
Votre résumé est bon dans le sens que l'inflation, le problème, il est présentement. C'est maintenant que l'inflation est élevée. Tandis que le fardeau, c'est une situation historique qui date depuis toujours et qu'on ne doit pas s'adresser de façon précipitée et irresponsable, parce qu'on a des responsabilités au niveau du financement des services publics.
Parfait. Monsieur Girard, avant de vous laisser, en juillet dernier, on s'est parlé de la récession et de vos projections par rapport à la récession. C'est-tu 50 % 33, 35, 30? Et vous m'avez parlé un peu de la mécanique également, là, de votre passé comme économiste, que c'est des dossiers que vous suivez sur une base quotidienne qui se met à chaque heure. Et là, aujourd'hui, vous avez quand même dit que dans ce que vous voyez devant vous, dans votre boule de cristal, vous ne prévoyez pas de récession. Donc, qu'est-ce qui a changé entre le 30 % ou 33 ou 35 % du mois de juillet comparé là aujourd'hui, donc vous dites 0 % là, à la mi-août? Là?
Non, j'ai pas dit 0 %, juste pour préciser ce que le ministère des Finances a prévu pour 2022 et 2023, le scénario le plus probable, c'est une économie qui ralentit sans entrer en récession. Ça n'empêche pas que la croissance pourrait être plus forte ou plus faible, et si elle était plus faible, il pourrait y avoir une récession. Et puis, lorsque on regarde l'ensemble des analystes du secteur privé, sur l'horizon 18 à 24 mois, la probabilité d'une récession, c'est de l'ordre entre 25 et 50 %. Personnellement, mon chiffre, je dis que la probabilité d'une récession en 2023 ou dans les 18 prochains mois est de l'ordre de 35 %, ce qui veut dire qu'il y a 65 % de chances qu'on ait une croissance positive modérée.
OK, donc votre pourcentage de 35 % du mois de juillet est toujours le même aujourd'hui?
Toujours le même.
Parfait.
Mais
excellent.
Le scénario le plus probable n'est pas une récession. Mm-hmm. Et je vous dirais que si on prend depuis qu'on s'est parlé, la Banque du Canada a publié un rapport sur la politique monétaire et il ne prévoit pas non plus de récession en 2023.
Excellent. Éric Girard, ministre des Finances du Québec, un gros merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Au revoir.